Merci Émilie, en effet la grande table d'été en deux parties. Comme d'habitude, une première consacrée à la Cité de la Tapisserie qui vient d'ouvrir à Aubusson. Une deuxième, le portrait de Amos Gitaï, dont une captation vient de paraître en DVD. Et puis au milieu de la musique, aujourd'hui ce sera Feynman. Mais tout de suite, il est 12h30 et c'est l'heure du journal de la rédaction. Journal présenté par Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Lucille, bonjour à tous. Un prêtre égorgé dans une église par deux hommes, cela s'est passé ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray, tout près de Rouen. Avant d'être abattu par les forces de l'ordre, les deux hommes ont égorgé le prêtre. Un autre des cinq otages est entre la vie et la mort. Le chef de l'État François Hollande et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se rendent sur place. Nous ferons le point avec Marie Bonisseau et Stéphane Robert. Le point aussi sur la Turquie qui sombre jour après jour. La répression se poursuit depuis une dizaine de jours après le putsch raté. Répression des intellectuels, entre autres, qui fuient le pays. Témoignage à suivre recueilli par Cécile de Kervasdoué. 40 000 km parcourus dans les airs uniquement grâce à l'énergie du soleil. L'avion Solar Impulse 2 a réussi son pari. Il s'est posé cette nuit. À présent, l'heure est à l'évocation des possibilités, des développements technologiques. Nous verrons cela avec Véronique Roberotte à la fin de ce journal. Deux hommes qui s'en prennent à un religieux dans une église. Le scénario était redouté par les services de renseignement français. Il s'est produit ce matin à Saint-Étienne-du-Rouvray, tout près de Rouen. Bonjour Marie Bonisseau.
Bonjour.
Ces deux hommes armés de couteaux ont d'abord retenu cinq personnes en otage.
Oui, cinq personnes qui se trouvaient donc dans l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray pour célébrer la messe ce matin. Le prêtre a été tué par les assaillants. Un autre otage serait actuellement entre la vie et la mort. Et les deux assaillants ont donc été abattus. Écoutez, le déroulé précis de ces événements par Pierre-Henri Brandet, c'est le porte-parole du ministère de l'Intérieur.
Il y avait des religieux, il y avait un prêtre, il y avait aussi, semble-t-il, des fidèles, puisque lorsque les assaillants sont arrivés, c'était à l'heure de la messe matinale, et que les deux assaillants ont pris en otage les cinq personnes qui se trouvaient là dans les murs de l'église à Saint-Étienne-du-Rouvray. La BRI de Rouen est intervenue très rapidement. Le secteur a été bien évidemment bouclé immédiatement. Et donc les forces de l'ordre et les forces de sécurité ont pris position autour. Et à un moment donné, les deux assaillants sont sortis de l'église et ont été à ce moment-là neutralisés par la BRI.
Alors, s'agit-il d'un attentat islamiste? Il faut rester très prudent pour le moment puisque l'agression n'a pas été revendiquée. Mais de sources policières rapportées par notre confrère de France Info, Olivier Bois, il semblerait que les deux hommes auraient proféré des cris islamistes en entrant dans l'église. Propos rapportés par l'une des otages, une religieuse qui aurait, elle, réussi à s'échapper de l'église. Vous l'avez dit, Ludovic, s'il s'agit effectivement d'un attentat, c'est un scénario que les autorités craignaient. En avril 2015, déjà, un projet d'attentat contre une église de Villejuif dans le Val-de-Marne avait été déjoué par la police. Rappelez-vous, il s'agissait de Sid Ahmed Glam, étudiant franco-algérien, qui avait reçu vraisemblablement des instructions d'organisation terroriste en Syrie.
Marie Bonisseau, le chef de l'État François Hollande et le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve se sont immédiatement rendus sur les lieux. Ces faits se déroulent le jour où démarre un grand rendez-vous pour les catholiques du monde entier, les JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse, à Cracovie, en Pologne. Je vous le disais, l'exécutif a immédiatement annoncé qu'il se rendait dans cette commune à Saint-Étienne-du-Rouvray, donc au sud de Rouen, tout près de Rouen. On voit aussi au nombre de réactions de la classe politique, Stéphane Robert, l'émoi que ce nouvel épisode de violence suscite.
Oui, bah vous l'avez dit, hein, c'est déjà l'exécutif qui a réagi très vite, pressentant l'émoi que pouvait potentiellement susciter cette prise d'otage dans une église autour de laquelle plane encore une fois l'ombre du terrorisme islamiste. Dès 11h15, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve a annoncé qu'il se rendait sur place, suivi quelques minutes plus tard par François Hollande. Le chef de l'État peut en effet se sentir tout particulièrement concerné puisqu'il est originaire de Rouen, mais c'est sur les réseaux sociaux, sur Twitter en particulier, que les réactions politiques commencent à se multiplier. Manuel Valls, il y a quelques minutes, parlait d'une attaque barbare face à laquelle nous ferons bloc, déclare le Premier ministre. À droite, Jean-Pierre Raffarin met en garde. Ne tombons pas dans le piège d'une guerre de religion, s'inquiète l'ancien Premier ministre. Ces crimes sont le fait d'assassins auxquels la plus grande fermeté doit s'appliquer. L'horreur encore, s'indigne Jean-François Copé, tandis que Christine Boutin parle des premiers martyrs du 21e siècle en France. Mais c'est surtout l'extrême droite qui a été la plus prompte à réagir, avec en premier lieu Marine Le Pen qui a parlé d'épouvante et d'un modus operandi qui fait penser au terrorisme islamiste. Ont enchaîné bon nombre de personnalités du Front National, David Rachline, Florian Philippot ou encore Marion Maréchal Le Pen. « Il tue nos enfants, assassine nos policiers et égorge nos prêtres », écrit la nièce de la présidente du FN dans une volonté de globaliser les différentes attaques survenues ces derniers mois. « Réveillez-vous », conclut-elle.
Et après l'assassinat de ce prêtre, on apprend à l'instant que le pape François s'associe à la douleur et à l'horreur dans un communiqué du Vatican. Après le drame du 14 juillet à Nice, deux hommes ont hier été interpellés et placés en garde à vue. Deux hommes qui apparaissaient sur des photos retrouvées dans le téléphone portable de l'auteur de l'attaque. À ce stade, cinq personnes de son entourage ont déjà été mises en examen et écrouées dans cette enquête. Et puis il y a une semaine, jour pour jour, décédé Adama Traoré lors d'une interpellation policière dans le Val-d'Oise. La famille veut connaître les causes exactes du décès. La justice a autorisé ce matin la demande de contre-expertise. Une nouvelle autopsie aura donc lieu dans la journée. Une salle chauffée par la première dame Michelle Obama, suivie du discours du rival Bernie Sanders qui soutient la candidate Hillary Clinton. Les 5000 délégués démocrates à la convention de Philadelphie ont tenté de montrer la nuit dernière une image d'unité. Suite du programme, Hillary Clinton sera officiellement désignée candidate ce soir, mais elle ne prendra la parole que jeudi. Ce soir, c'est le très bon orateur qu'elle connaît fort bien, Bill Clinton, qui est attendu à la tribune. Mais cette convention ne se déroule pas sans accroc, sans anicroche. On en parlait hier avec ces révélations Wikileaks juste avant cette grand-messe. Des milliers de messages échangés entre responsables du Parti démocrate ont fuité et montrent une forme de partialité, à tout le moins un mépris pour Bernie Sanders. De quoi fissurer cette image d'unité des démocrates, de quoi aider au passage l'adversaire républicain Donald Trump. Et voilà que certains dans le camp Clinton y voient la main de la Russie. Maxime Fayol, le FBI enquête sur ce piratage de mails.
Et oui, pour revenir sur ces 20 000 mails, vous l'avez dit, ce sont des propos moqueurs, désobligeants vers Bernie Sanders et son équipe. Des techniques même pour le saborder. Dans un mail, par exemple, un membre du comité cherche à remettre en cause sa religion pour lui donner mauvaise image dans certains états. La fuite vient donc de Wikileaks, mais les démocrates affirment que des hackers russes ont pénétré leur système le mois dernier. Les mails auraient donc été piratés par Moscou pour nuire à Hillary Clinton face à Donald Trump. C'est la théorie en tout cas du Parti démocrate et c'est crédible pour la spécialiste en cyberstratégie Frédéric Douzet.
Il y a peut-être une possibilité qu'effectivement Poutine cherche à influencer la campagne. Là, on a un timing qui est particulièrement bien choisi pour perturber la convention des démocrates. Il est vrai que peut-être que Trump est perçu comme un futur président avec lequel on aurait plus de chances d'améliorer les relations entre les États-Unis et la Russie qu'avec Hillary Clinton, avec laquelle on risque d'être dans une confrontation continue entre les deux pays.
Et le plus compliqué pour Frédéric Douzet, c'est maintenant de prouver l'origine de ce piratage et donc de remonter éventuellement jusqu'à Vladimir Poutine.
Les services russes ont tendance à déléguer à des groupes de hackers certaines de leurs activités de renseignement, ce qui permet d'être dans le déni plus facilement par rapport au vol de données. On peut avoir aussi des hackers patriotes qui agissent indépendamment ou on peut avoir des services de renseignement. Donc il y a d'une part arriver à savoir qui a mené ces attaques, d'autre part réussir à prouver le lien éventuel avec l'État. Cette divulgation de données à ce moment-là ressemble beaucoup au style de guerre informationnelle menée par les Russes.
Et de son côté, le Kremlin a réagi ce matin à ces accusations. Moscou les juge absurdes. De l'autre côté de l'Atlantique, vous l'avez dit, le FBI a ouvert une enquête.
Maxime Fayol, Moscou qui juge ces accusations absurdes et qui relève d'une utilisation maniaque de la Russie dans la campagne électorale américaine, précise ce porte-parole du Kremlin. Les chefs des diplomaties russes et américaines, Lavrov et Kerry, ont échangé sur le sujet ce matin alors qu'ils se trouvaient à Laos, au Laos en marge d'un sommet de l'ASEAN, les pays d'Asie du Sud-Est, les mêmes diplomaties russes et américaines qui, malgré ce nouvel accroc dans leurs relations, doivent travailler ensemble sur le dossier syrien. Une réunion est prévue en ce moment à Genève. John Kerry espère pouvoir y faire des annonces, mais pas avant le début du mois d'août, disait-il ce matin, notamment en matière de cessation des hostilités, de cessez-le-feu, un cadre qui permettrait la reprise des discussions intra-syriennes. Une guerre qui est à l'origine d'une grande partie des migrants disparus en Méditerranée. Depuis le mois de janvier, 3000 personnes y ont laissé la vie, un chiffre transmis ce matin par l'Office international des migrations, un chiffre très élevé. Depuis deux ans, plus de 10 000 migrants sont morts ou portés disparus en mer en tentant de gagner l'Europe. Et puis à Calais, en France, dans ce qu'on surnomme la jungle, c'est bidon. bidonvilles où séjournent les migrants qui veulent gagner l'Angleterre. Souvent le ton monte, les rixes sont régulières, c'était encore le cas cette nuit et pour la première fois, l'un de ces migrants est mort d'un coup de couteau en pleine poitrine, un Éthiopien de 37 ans. La précédente rixe dans la jungle de Calais date de fin mai. Elle avait fait 40 blessés. Beaucoup de messages très inquiets nous parviennent de Turquie, car après le putsch raté il y a une dizaine de jours, le président turc Erdogan poursuit sa vaste répression contre les militaires, contre les policiers, les employés d'entreprises publiques, les intellectuels, les journalistes. Hier, on en parlait ici même, 42 mandats d'arrêt ont été lancés contre des journalistes. 24 heures plus tard, 6 ont été placés en garde à vue et 11 ont carrément quitté le pays. Une forme d'exode des intellectuels est à l'œuvre. Preuve en est ce témoignage, on l'appellera Maya, on appellera cette personne Maya. Elle est professeure d'université, spécialiste du terrorisme et des questions de sécurité. Son université a été fermée parce que considérée comme financée par le mouvement des gulenistes, de Fethullah Gulen, l'ennemi juré d'Erdogan. Maya est très inquiète, elle s'est confiée à Cécile de Kervas-Doué.
En fait, il y a une purge de la part du gouvernement et je pense que cette tentative de coup a été vraiment une très très bonne excuse pour purger en fait tout ce qui est de l'opposition. Donc j'ai bien peur que rien ne s'arrange. Oui, on a pu éviter une tentative de coup, mais ça ne veut pas dire qu'on est devenu un pays parfaitement démocratique. Et vous savez, ils ont déjà suspendu la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a des tortures sur les personnes qui ont été arrêtées après la tentative de coup. Donc je suis très, très inquiète, en fait.
Est-ce que vous êtes inquiète pour vous-même aussi?
Oui, je suis tout à fait inquiète pour ma situation personnelle aussi, du fait que je suis quelqu'un, disons, plus ou moins connu au niveau idéologique et politique, et donc je suis activiste des droits humains, et il y a trop de pression maintenant sur les pacifistes. Il y a cette prohibition de sortie aussi à l'étranger, vous savez, donc je ne sais pas comment on va faire. La Turquie s'enferme sur elle-même de plus en plus chaque jour, donc je suis tout à fait inquiète.
Est-ce que vous pourriez me décrire un peu l'ambiance, puisque vous êtes rentrée donc hier à Istanbul, mais à quoi ça ressemble en fait?
Écoutez, la nuit de la tentative, du coup, moi j'étais dehors, donc j'ai eu très très peur parce que j'ai vraiment frôlé la mort deux fois de suite. Après cette nuit-là, il y a eu des poules qui démonstraient dans les rues, en criant « Allahu Akbar », jouant des marches ottomanes. Ça continue toujours dans les rues, cette démonstration. Donc, crier « Allahu Akbar » dans un quartier qui est connu avec sa modernité ou bien sa laïcité aussi, je le perçois comme une sorte de menace. Je pense qu'il y aura un exode énorme de Turquie vers l'Europe, parce que déjà, la plupart de mes collègues et de mes amis ont déjà commencé à partir en Europe ou bien aux États-Unis. Là, je pense qu'on est allé en arrière à peu près de 50 ans. Je suis très, très inquiète.
Cette professeure d'université turque, Maya, rejointe par Cécile de Kervas-Doué. On a appris, parmi les 42 mandats d'arrêt lancés contre les journalistes, l'arrestation il y a quelques instants d'une des figures, une figure de premier plan du monde des médias en Turquie, Nazlı İliçak, une célèbre journaliste turque qui avait notamment critiqué nombre des ministres du gouvernement Erdogan, à l'époque empêtrés dans un scandale de corruption. Amnesty International dénonce tout simplement des purges basées sur l'appartenance politique. Au total, 500 heures de vol, 40 000 km. L'avion à énergie solaire, Solar Impulse 2, s'est posé vers 2h du matin, heure française, dans la capitale des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Un oiseau piloté par les Suisses Bertrand Piccard et André Borschberg, après 16 escales, un défi autant technologique qu'humain. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
On salue ce midi l'exploit pour refermer ce journal, mais après, on en fait quoi de ce laboratoire vivant ?
Solar Impulse 2 avait un but bien précis, faire la démonstration qu'on peut envisager d'utiliser donc des énergies propres, renouvelables, non seulement dans l'aéronautique, mais aussi dans d'autres secteurs, l'automobile ou le spatial. La grande avancée de Solar Impulse, avion solaire donc capable de stocker suffisamment d'énergie dans ses batteries la journée pour voler la nuit, la grande avancée, eh bien c'est le système dans son ensemble, une combinaison d'énergie propre générée par le solaire, stockée et des matériaux qui permettent ensuite de transporter des passagers, pas 200 personnes demain sur un vol commercial par New York. York. Ça, non, mais Bertrand Piccard, le concepteur du projet, imagine que d'ici une dizaine d'années, on pourra faire des moyens courriers à bord d'avions électriques avec une cinquantaine de passagers, des avions silencieux, non polluants, énorme enjeu environnemental puisque le transport aérien représente 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. En tout cas, ce que dit Piccard, c'est que si la démonstration est faite qu'un avion peut voler jour et nuit sans carburant, plus personne ne peut dire que c'est impossible d'utiliser les mêmes technologies pour les voitures, l'air conditionné, les ordinateurs, etc. aux industriels de s'en emparer. Bertrand Piccard.
Le pétrole, on ne peut pas s'en passer du jour au lendemain. On en a tous encore besoin. Mais on peut se diversifier, on peut pousser des nouveautés. Et c'est ça que font les pionniers finalement. C'est pousser des nouvelles solutions. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la politique, mais je ne le fais pas dans un parti. Je ne le fais pas dans des élections. Je ne le fais pas comme candidat à un poste partisan. Ce que je dis, ça peut être en même temps apprécié par la gauche, qu'il faut protéger l'environnement, en même temps par la droite, parce que ça permet de créer des emplois et de faire du profit. Il faut arrêter de cliver, il faut rassembler.
Alors les concepteurs de Solar Impulse vont de leur côté lancer leur propre projet industriel, la fabrication de drones solaires stratosphériques capables de voler pendant 6 mois à 20 km d'altitude et qui survoleraient, surveilleraient le trafic aérien mondial. Ils viennent aussi de créer un comité international pour les énergies propres qui entend fédérer les ONG, les entreprises, les environnementalistes de tous bords qui ensemble tenteront d'influencer bien les États pour qu'ils développent et encouragent les énergies. Les énergies vertes, zut.
Véronique Rebérotte, merci. Le temps de ce mardi 26 juillet estival, nous dit Météo France. Quelques averses possibles de la Bourgogne à l'Alsace et près des Alpes. Température maximale de 19 à 23 degrés. C'est un peu frais sur les bords de la Manche. 24 à 31 degrés du nord au sud, jusqu'à 34 degrés près des côtes méditerranéennes. Édition réalisée avec François-Charles Domergue. Je vous retrouve à 18h pour le prochain journal.